soir, la RDC est suspendue pour une durée d'une année de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIER, qui encourage la transparence des revenus dans le secteur minier et pétrolier. Selon le ministre de l'Environnement, qui est aussi deuxième vice-président du comité exécutif de l'ITIER RDC, cette suspension est due en partie à la non-traçabilité de 88 millions de dollars américains payés par les industries minières du Katanga en 2010 à la DGRA de Kinshasa. Comment analyser cette situation? Quelles pourraient en être les conséquences pour la RDC? Nous recevons pour en parler professeur Jérémy Mac Doumba, coordonnateur national de l'ITIER RDC. Professeur Doumba, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Honorable Fidèle Babala, député national de l'opposition et cadre du parti politique MLC, il était le directeur de cabinet adjoint du vice-président chargé de l'ECOFIN lors de l'adhésion de la RDC à l'ITIER en 2005. Honorable Babala, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Michel Somoué, économiste et expert indépendant. Monsieur Somoué, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Suspension de la RDC du statut à l'initiative pour la transparence des industries extractives. La non-traçabilité de 88 millions de dollars américains au niveau de la DGRA de Kinshasa, payée par les industries minières du Katanga en 2010, en est l'une des causes. Affirmation faite ce week-end à Kinshasa par le ministre de l'Environnement et aussi deuxième vice-président du comité exécutif de l'ITIER RDC. Dans une interview accordée à Radio Capi, Pavon Samputu souligne que le comité exécutif de l'ITIER RDC a pris acte de cette suspension et a promis d'améliorer le processus ITIER au cours du délai lui imparti jusqu'au 17 avril 2014. Michel Kifindangoy.
La suspension du statut de la RDC à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIER est due notamment au manque de traçabilité de certaines taxes payées par les entreprises extractives aux régies financières. Pour le ministre de l'Environnement, les 88 millions de dollars non traçabilisés au niveau de la DGRAD est l'une des causes de cette suspension. Bavon Samputu.
Au niveau du comité exécutif, il est effectivement démontré qu'il y a 88 millions qui flottent, qui ne sont pas retracés entre les opérateurs économiques miniers et les services de l'État censés assurer les recouvrements.
Cette suspension a un impact négatif sur l'image et la notoriété de la RDC au niveau international, a affirmé Bavon Samputu, deuxième vice-président du comité exécutif de l'ITIER.
Nous perdons en termes de prestige national et international, mais concrètement, c'est juste un recalage. Je prends le cas d'un étudiant qui a 85%, mais qui, avec deux échecs graves, est recalé pour la deuxième session. C'est l'image que représente le pays aujourd'hui.
Pour pérenniser la mise en œuvre de l'ITIER en RDC, le comité exécutif promet la mise en place d'un plan d'action et la publication du rapport 2011 avant le 31 décembre de cette année.
Merci Michel Kifindangoy. Professeur Jérémy Mac Doumba, vous êtes coordonnateur national de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIER RDC. Professeur, la trace des 88 millions de dollars a été perdue depuis 2010. Pourquoi ce n'est que maintenant que l'on en parle?
Merci Alain pour la question. Je voudrais d'abord repréciser les choses. Toutes les fois que vous parlerez de la décision de l'ITIE international en ce qui concerne la suspension, n'oubliez pas d'y ajouter une suspension temporaire. C'est-à-dire qu'à tout moment, non, c'est pas comme ça. Quand on dit temporaire, c'est-à-dire à tout moment, la République démocratique du Congo peut revenir au statut.
Après deux mois, après trois mois, après une semaine.
Tout à fait. Donc on peut améliorer le rapport 2010, par exemple, ou bien produire un autre rapport. Et à tout moment, on peut reprendre notre statut de pays conforme. Et aussi, il faudrait qu'on explique à nos auditeurs qu'il ne s'agit pas de la suspension de la République démocratique du Congo à l'ITIE, mais il s'agit de la suspension du statut de pays conforme de la République démocratique du Congo. Ce statut est suspendu jusqu'à ce qu'on améliore. Donc la République démocratique du Congo continue à siéger comme membre à part entière à l'ITIE. Et d'ailleurs, je vous donne la bonne nouvelle, déjà, maître Jean-Claude Katende, a été réélu comme administrateur au conseil d'administration de l'ITI, ce qui fait que la République démocratique du Congo continue à faire. Et la troisième raison, avant que vous posiez la question, parce que je vois que ça vous brûle, la troisième raison, il faut aussi dire que la suspension temporaire du statut de la République démocratique du Congo à l'ITE est une opportunité pour améliorer un rapport et ce n'est pas une sanction. Voilà ce que je voulais d'abord préciser. Et alors vous voulez...
Alors merci pour toutes ces précisions. En attendant, où sont les 88 millions?
Non, il n'y a pas... Donc quand vous posez une question dans ce genre, on dirait on a détourné 88 millions. C'est ça justement le problème de la non-appropriation du processus par les organes de presse.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? On les a déplacés? Ne nous perdons pas dans les mots.
Le principe fondamental de l'ITE consiste à ce que les entreprises déclarent ce qu'elles ont payé à l'État et que l'État déclare ce qu'il a reçu. Et on a fait appel à un administrateur indépendant qui peut réconcilier les points. En ce qui concerne les fameux 88 millions de dollars, il s'agit tout simplement d'un écart négatif. C'est-à-dire que au niveau de l'État, on n'arrive pas à retracer. Le fait de ne pas retracer ne veut pas dire que cela a été volé. Je vous donne un exemple pour étayer cela. Normalement, c'est la Cour des comptes qui doit justifier que les entreprises de l'État, en fait les régies financières, lorsqu'elles déposent, elles déclarent à l'ITE, leurs déclarations sont certifiées. Mais la Cour des comptes a dit qu'il n'est pas possible de retrouver tout l'argent qui est provenu du secteur extractif au niveau de la Cour des comptes, parce que tout cela est mélangé avec d'autres paiements. Donc c'est dans ce sens-là que la DGRAD, lorsqu'elle a fait des déclarations de 313 millions de dollars provenant du secteur pétrolier, secteur minier, donc ce n'est déjà faux de dire que ce n'est que du secteur minier. Dans les 313 millions de dollars, on a retracé 225 millions et les 88 millions, il y a les notes de débit, il y a les notes de perception. On est en train de les rechercher dans le système de la Banque centrale pour que les justificatifs soient portés.
Donc, ils n'ont pas encore été trouvés.
On n'a pas encore toutes les preuves que les 88 millions ont été retracés de manière claire et nette.
Alors nous allons prendre pour vous, professeur, cette réaction qui nous vient de Bruxelles en Belgique.
Professeur Victor Okombe de Bruxelles en Belgique, il se passe à notre pays des histoires vraiment incroyables. Vous allez voir que des faits graves comme ceux-là, parce que dites-vous que nous avons ici un problème de non-traçabilité de 88 millions de dollars américains, des faits de ce genre vont passer comme s'il n'y avait rien, comme si c'était normal. Et ce sont des choses qui se font dans le pays au quotidien, dans tous les secteurs, aux vies et au-dessus de tout le monde. Si les ONG font beaucoup de bruit, on va juste nous parler d'une commission d'enquête pour bien nous endormir. Oui, il n'y aura rien. Mais comment voulez-vous que nous puissions espérer nous développer un jour? D'où viendrait ce développement? Tant que l'immoralité et l'impunité vont caractériser le système de gestion chez nous, eh bien, le pays va continuer à patauger.
Alors, professeur, réaction.
Oui, merci mon ami à partir de Bruxelles. Je suis très très fier de votre réaction et je voudrais tout de suite vous rassurer d'une chose. Tout cela ne passera plus inaperçu. C'est pour cela que au niveau de l'ITE, cela a été porté à la place publique. Et lorsque nous, au niveau de l'ITE, nous ne sommes pas des contrôleurs, mais nous voudrons confirmer que si réellement on ne peut pas retracer cela, il y a une décision du conseil d'administration, du conseil exécutif de l'ITE de la République démocratique du Congo qui a déjà été prise. Lorsque cet écart restera résiduel après l'analyse de tous les écarts et tous les efforts qui sont en train d'être faits, le comité exécutif a décidé de déposer cela à la table du procureur général de la République. Est-ce que je peux vous annoncer déjà que moi-même, je suis déjà l'objet d'une convocation au niveau du procureur général de la République pour que je puisse donner des informations à ce sujet, pour que, sans attendre d'ailleurs la décision du comité exécutif, pour qu'eux-mêmes s'en saisissent. Donc, nous avons déjà dépassé la période où les choses se passeront comme ça à tout hasard, et je pourrais vous rassurer que si vraiment il y a eu normalement des détournements à ce sujet et qu'on ne retrace pas, la justice s'en saisira et vous pourrez être satisfait du résultat de notre justice.
Honorable Fidèle Babala, vous êtes député national de l'opposition, cadre du MLC. Vous étiez directeur de cabinet adjoint du vice-président chargé de l'ECOFIN lors de l'adhésion de la RDC à l'ITE en 2005. Comment vous analysez cette situation?
C'est une situation extrêmement grave qui vient après les rapports de l'ONU que nous avons tous suivis sur la crise de l'Est, où un certain nombre de manquements ont été reprochés à notre État. Cela vient après la suspension ou l'annulation par les Fonds monétaires internationaux d'une partie de l'assistance financière que cette institution faisait à notre pays. Cela montre une pratique, lève un peu le voile sur une pratique kleptocratique de notre pouvoir. Il est aujourd'hui question d'un écart, tel que vient de dire mon contradicteur,
le professeur Mac Ndoumba.
Aujourd'hui, nous avons un écart entre ce que les sociétés extractives, dans leur ensemble, ont publié, ont déclaré avoir payé à l'État, et ce que notre régie financière, notre gouvernement, a pu déclarer avoir perçu de ces sociétés. Cette initiative entre dans ce que les anglophones appellent « publish what you pay ». Cela,
publier ce que vous payez.
En français, ça veut dire cela. Cela entre dans le cadre de la lutte contre la corruption qui est ambiante dans le secteur des industries extractives. Aujourd'hui, chez nous, nous avons ces cas-là qui lèvent un peu le voile sur la pratique gouvernementale, comme je le disais, de kleptocratie. Aujourd'hui, depuis 2010, tel que vient de dire le coordonnateur national des luthiers, il y a 86 millions de dollars qui se baladent quelque part. On ne sait pas retracer. Je suis avec attention son optimisme. J'aimerais quand même doucher son optimisme pour dire que dans notre pays, on est coutumier de ce genre de faits, où les gens se servent sans vergogne sur la bête qu'est le pays, sans penser qu'ils ont un devoir de redevabilité par rapport à notre population. Vous verrez, il y aura, comme disait l'intervenant de Bruxelles, il y aura des commissions d'enquête, il y aura rien du tout. Cela fait suite aussi à ce que nous avons connu à l'époque de Kabila Père, de ses First Quantum. Vous vous rappelez, la suite de ces feuilletons, la République démocratique a dû débourser 500 millions de dollars parce que condamné par le tribunal arbitral de Genève. Et l'actuel président de la République qui a repris les dossiers après avoir confirmé ses contrats aux Canadiens a finalement renié sa signature. D'où nous sommes allés en procès. Ça vous étonne pas que des députés puissent retirer leur signature sur un document qu'ils ont signé. C'est l'image, en fait, du pays qui est battu en brèche. Nous avons l'image d'un pays qui ne respecte rien, qui protège la corruption. Je suis prêt à parier aujourd'hui qu'il y aura aucune avancée sur le sujet. Tout simplement parce que entre ce que les sociétés ont payé et ce que la DGRAD a déclaré avoir payé, il y a eu certains comptes privés dans les îles Vierges Caïmans qui ont été alimentées.
Alors, honorable, à vous suivre, doit-on déjà craindre ou doit-on parler déjà d'une certaine opacité dans les secteurs miniers et pétroliers malgré la présence de litiers?
Absolument. Mais il n'y a pas que dans ces secteurs. Vous voyez, toute la pratique gouvernementale est faite d'opacité. Quel est le contrat le plus important qui a été passé par voie d'appel d'offres? Malgré qu'il y ait une loi financière, une loi sur la passation de marché ici, notre gouvernement actuel et le gouvernement précédent se complaisent à passer des marchés de gré à gré. C'est la conséquence logique que le pays puisse être sanctionné de cette façon-là. Bien que le professeur Jérémy Mac Ndoumba minimise un peu l'incident, je crois que c'est extrêmement grave. Vous avez suivi aussi un certain nombre de contrats miniers, 4 contrats miniers qui concernaient, qui mettaient en cause Dan Gettler, où le pays avait vendu ce genre de concessions appartenant à la Gécamines pour quelques dizaines de milliers de dollars. Quelques mois après, ça a été revendu sur le marché boursier à plus de 800 millions de dollars. C'est le pays qui perd.
Et donc, dans ce contexte, l'ITIE aurait-elle sa raison d'être en RDC?
Je sans pour autant minimiser mon collègue de ce jour qui est à côté, je pense que les gens ne se sont pas suffisamment appropriés du concept de l'ITIE de transparence. Je crois que, comme tout ce que nous faisons ici dans ces pays, nous nommons des amis, des connaissances, dans des positions qui peuvent être des positions, je dirais des promotions pour la République. Mais on nomme des gens qui se complaisent à garder ces postes-là sans pour autant pouvoir mettre en évidence les qualités de notre République.
Nous allons prendre pour vous, honorable Babala, cette réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud Kivu.
Robert Baume de Bukavu au sud de Kivu. Suspendre la RDC de Litier, c'est bien. Mais je pense que cela ne devra pas du tout être efficace, d'autant plus que dans toutes les opérations de détournement des revenus miniers, on s'attaque plutôt aux conséquences qu'aux causes réelles du phénomène.
Réaction honorable, on s'attaque plutôt aux conséquences qu'aux causes réelles.
Mais il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, quelle est la volonté de notre gouvernement de pouvoir s'attaquer aux causes réelles? L'ITIE n'est pas un organisme qui serait en mesure de pouvoir, en lieu et place de l'État, prendre des dispositions, des sanctions internes. Avons-nous vu dans ces pays un responsable public, un mandataire public, être arrêté pour faire des détournements? Ça n'existe pas. On a vu des généraux vendre des armes aux rebelles, on n'a arrêté personne. On a vu un certain nombre de membres du gouvernement, surtout les gouvernements passés, personne n'a été inquiété. Quand on demande à nos ministres de pouvoir justifier leur patrimoine, déclarer leur patrimoine avant d'entrer en fonction, ben on s'arrange pour étouffer cette initiative. Finalement, dans ces pays, on vit mieux dans l'opacité que dans la lumière.
Michel Soumoui, vous êtes économiste et expert indépendant. Vous venez de suivre le professeur Jérémy Makdoumba, l'honorable Babala. Quelle est votre analyse?
Je pensais que le professeur Doumba, en tant que coordonnateur de l'ITIE, allait être la personne la plus indignée par cette information et par cette mesure. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il la minimise et la prend à la légère. Je ne dirais pas, comme le ministre de l'Environnement, que nous n'avons été que récalés. Et c'est aussi à peu près les propos du professeur Doumba. Moi, je considère que nous sommes humiliés en tant que nation. Parce que qu'il y ait opacité, et que le professeur Doumba dise que ce n'est pas forcément de l'opacité, mais il y a un petit problème au niveau de la statistique, notamment question de retracer les écritures dans les livres de la Banque centrale du Congo, c'est ce que j'ai cru comprendre de sa bouche, et que c'est là qu'il y a un problème, mais ce problème ne peut quand même pas durer 3 ans, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne soit pas en mesure de clarifier une situation à propos de laquelle nous avons déjà eu des échanges l'année dernière sur cette même question de 88 millions de dollars qui se sont évaporés comme ça et on ne sait pas expliquer où c'est passé. Moi, je pense qu'il y a quand même un problème de crédibilité d'une nation et nous ne devons pas prendre ce genre d'informations ou ce genre de mesures à la légère. Ça nous ridiculise, ça nous humilie davantage au plan international. Le problème de notre adhésion à l'ITIE, c'était pour mettre fin en quelque sorte à la corruption qui gangrène notre société. C'est un problème. Et qu'on dise en même temps qu'il y a 88 millions de dollars qu'on ne sait pas retracer, ça devrait nous inquiéter tous. Et inquiéter plus particulièrement les responsables congolais de l'ITIE. Ils devraient en être indignés. Mais j'ai comme l'impression que tout le monde minimise le cas et on peut attendre encore 10 ans, et on en parlera et puis on dirait, vous savez, ça peut revenir à tout moment. Je crois que là, il y a un problème. Il y a un problème de moralité. Et là, je dis, il faudrait que dans ce pays, nous apprenions à moraliser la vie publique. Que lorsque nous prenons des engagements, et surtout au niveau international, nous devons quand même être capables de nous assumer correctement, de tirer toutes les conséquences de ces engagements, notamment justement en désignant des personnes qui peuvent quand même quelque part se sentir indignées par l'immoralité. Parce que ça, c'est de l'immoralité. 88 millions de dollars disparus et on trouve que c'est léger pendant que nous souffrons abondamment pour moins que ça, bien moins que ça, nous le mettons à genoux devant les institutions internationales, devant le Fonds monétaire international, devant la Banque mondiale. On croupit à genoux pour gagner un peu d'argent trop difficilement et 88 millions comme ça disparaissent. Il y a peu de temps, quand nous en avions parlé sur ces antennes de Radio Okapi, on semblait dire, je crois que c'était encore le représentant de l'ITIE, Congo, qui disait, le problème c'est que quand nous payons, quand les sociétés minières payent la DGRAD, il se passe un processus de rétrocession qui fait que les agents de l'État se payent avant de verser l'argent à la Banque centrale. C'est ce qu'ils avaient donné comme raison. Et on avait dit, mais ça s'appelle détournement. Comment pouvez-vous payer vous-même de l'argent à la source? Ce n'est pas normal.
Mais Michel Soumoui, le fait que l'ITIE ait rendu public cette affaire, cela n'est-il pas une bonne chose?
Le problème, l'ITIE international qui a rendu public cette affaire, qui n'est pas rendu public, l'ITIE a pris la décision. a pris la décision. Est-ce qu'il fallait que l'ITIE prenne cette décision par rapport à nous, tout un pays, toute une nation, si nous respectons? Quand nous observons quand même les pays que nous fréquentons ou des pays qui nous fréquentent, pourquoi ne pas pouvoir tirer des leçons de la qualité des hommes qui gèrent la chose publique et qui gèrent l'information publique, qui gèrent l'image de la nation? C'est quand même quelque chose d'important. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en arriver à cette sanction qu'on minimise pour dire on a été suspendu de notre statut de pays conforme. Mais ça veut dire que nous sommes un pays anormal. Si nous perdons ce statut, nous ne sommes pas sérieux quelque part. C'est ce que cela veut dire. Mais ça devrait nous indigner. Ça devrait nous interpeller. Moi, je crois que si nous voulons avoir une nation sérieuse, engagée correctement dans la démocratie, et si nous pouvons parler le langage en disant « oui, nous sommes devenus une nation fréquentable, nous fréquentons et on nous fréquente », nous devons être sérieux.
Mais le professeur disait tout à l'heure que lui-même a déjà fait l'objet d'une, a déjà reçu une invitation de la part de la justice. Cela n'est-il pas un bon départ?
Je suis indigné que cela arrive après la suspension, après une décision internationale. Mais on a attendu 3 ans durant. Pour pouvoir agir, 3 ans se sont passés, 88 millions portés disparus. Pendant 3 ans dans ce pays, on n'en parle pas. On s'est préoccupé énormément de ce cas dont a parlé tout à l'heure l'honorable pour le contrat de la Gécamine avec notre société. Et parce que le Fonds monétaire international était descendu ici pour dire je suspends la collaboration avec la RD Congo à cause de ce contrat de la Gécamine avec une autre, qui a vendu ses parts dans une société, etc. Mais ça, on s'est alerté l'attention de tout le monde. Mais depuis 3 ans, nous avons 88 millions de dollars, mon Dieu.
Professeur Makdoumba, réaction.
Oui, la première réaction, Alain, c'est que l'honorable, d'abord, à ce qu'il dit, je constate que l'honorable rejette la responsabilité qui est la sienne. Il a dit, les gens ne se sont pas appropriés. Non, le Parlement, dont il fait partie, ne s'est pas approprié le processus. Si l'ITE n'avait pas diffuser des rapports, et même pas seulement diffuser les rapports, porter, comme vous venez de poser cette question à mon ami Michel tout à l'heure, il a évité la question. Vous lui demandez, est-ce que le fait que l'ITE ait déjà publié cela n'est pas une bonne chose? Il a évité la question, parce que il ne suit pas, parce que il ne veut pas suivre. Et comme vous avez, qu'est-ce que le député dit? Les gens ne se sont pas appropriés. Et lui, le député, qu'est-ce qu'il a, il s'est approprié? Le député ici n'a jamais lu les rapports ITE. Le député ici ne sait pas où est-ce que... Ce n'est pas le seul écart, 88 millions aujourd'hui. Il y a énormément d'écarts que nous sommes en train de résoudre pour que nous puissions diffuser les écarts résiduels. Aujourd'hui, nous avons porté ceci parce que c'était sur la dernière décision du conseil d'administration.
Mais ça fait quand même 3 ans, professeur. Ça fait quand même 3 ans.
Laissez-moi, Alain. Qui a dit 3 ans? Parce que si nous, on n'avait pas publié le rapport 2010, personne ne pouvait dire il y a 3 ans. Qu'est-ce que les députés font? Qu'est-ce que le député de l'opposition, ici, comme il l'a dit, comme vous l'avez présenté, fait au Parlement? Il passe tout le temps à être dans l'opposition pour, au lieu de traiter des questions fondamentales des revenus du secteur extractif. C'est cela le problème. Donc le député, il dit, les gens ne se sont pas appropriés, mais lui... Il se dégage. Or, il relève de sa responsabilité d'interroger et de rechercher. Et lorsque Michel Somon dit clairement que nous ne minimisons pas. Nous disons que, et c'est un écart, l'ITE est une norme. L'ITE est une méthode d'apprentissage de la bonne gouvernance. Alors, nous ne sommes pas des contrôleurs. Nous ne sommes pas des auditeurs. Notre rôle principal réside à collecter les données, à publier des rapports que nous mettons à la disposition de la population qui doit faire les débats et interroger les parlementaires. Nous, on a publié le rapport et si le gouvernement congolais n'avait pas donné cette possibilité de pouvoir communiquer cette information, il n'y aurait pas débat aujourd'hui. Si nos rapports... Alors, je termine avant de répondre pour dire que dans cette norme, Donc, dans l'ITE, il y a 3 parties prenantes. Il y a la société civile, il y a les entreprises, il y a le gouvernement, mais il y a le Parlement. Il y a le Parlement, il y a la société... C'est moi, Michel, que vous dites. Il est de la société civile. Mais il faut féliciter d'autres membres de la société civile qui ont relevé qu'il fallait qu'on publie cela.
Alors, professeur, dans ce contexte qui paraît de pression, d'intérêt à gauche, à droite, quelle est la marge de manœuvre de l'ITIE?
L'ITIE continue à faire le travail, c'est un processus. Et nous, on n'est pas indignés comme ceux le disent, mais nous sommes très fiers que le processus porte. le processus a des résultats positifs en faveur de la République démocratique du Congo. Lisez ce que l'ITI International a écrit en communiquant la suspension temporaire. Il dit, normalement, à l'ITIE, il n'y a pas de suspension temporaire. Lorsqu'on rate la deuxième validation, il y a par contre la radiation. Le Gabon vient d'être radié parce qu'ils n'ont jamais fourni des efforts. Mais en République démocratique du Congo, les manœuvres, la marge de manœuvre de l'ITIE, c'est d'améliorer de plus en plus. Nous avons accompli des efforts énormes, énormes dans la question de la transparence, avec à la tête le chef de l'État, le Premier ministre, qui nous disent continuez, collectez, publiez et faites connaître.
Alors brièvement, professeur, avant que je ne donne la parole à l'honorable Babala, le ministre de l'Environnement disait tout à l'heure que cette suspension temporaire ne serait due en partie qu'à la non, pas seulement à la non-traçabilité des 88 millions de dollars. Y aurait-il d'autres causes?
Oui, lesquelles? Je suis très fier que ce ministre, qui est membre, qui est le deuxième vice-président, dise c'est en partie. En fait, il y a... C'est comme dans ce processus, on nous a reproché, par exemple, de n'avoir pas repris dans le rapport 2010 des taxes qui ont été perçues au niveau provincial du Katanga, notamment la taxe sur la voirie et drainage et la taxe sur l'exportation des concentrés de cuivre et de cobalt. Et ces taxes n'étaient pas répertoriées. Mais nous disons, nous sommes en train d'apprendre. Il était question que le processus avait déterminé un périmètre sur les flux financiers et non pas cela. Donc ce sont là d'autres petits exemples que nous pouvons reprendre.
Honorable Babala, quelle est votre réaction?
J'aimerais d'abord resituer dans le cadre précis de ce débat un certain nombre de propos tenus par le professeur Jérôme, qui dit que les députés ne s'approprient pas suffisamment de l'ITIE et qu'il s'agirait de notre responsabilité de pouvoir interroger et rechercher. Il a peut-être raison, mais la réalité est quoi aujourd'hui dans notre pays? Dans notre pays, les gens qui sont investis du pouvoir de l'État par des élections, même si c'est des élections qui sont sujettes à caution, ils exercent l'impérium de l'État. Ces personnes, à commencer par les personnes qui sont responsables devant le Parlement, vous avez tous suivi ce qui s'est passé il y a une semaine, refusent de pouvoir se plier au principe de la redevabilité. Mais le professeur Jérémy Makdoumba il parle de plusieurs écarts, de plusieurs années. Mon Dieu, ça fait depuis 2010. Quand il dit qu'on a publié, c'est l'ITIE International qui a publié. Les nôtres a fait quoi? Il était en train de dormir sur ses lauriers. Je me pose la question de savoir s'il y a des gens qui sont capables dans la section ITIE Congo. À entendre les réactions de mon contradicteur, je me demande s'il n'est pas en train de jouer un vaudeville de mauvais goût. Dire que le président de la République est transparent, mon Dieu. Dire que le Premier ministre est transparent, mon Dieu.
Mais au niveau de l'Assemblée, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce genre de situation?
Nous allons pouvoir, encore une fois, exercer notre initiative de pouvoir contrôler.
En vous perdant dans des commissions, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Mais nous n'allons pas décourager parce que il y a une volonté de blocage de la part du bureau et de la majorité. Anyway, nous allons poser des questions et nous allons amener les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Cela dit, je pense qu'il est question que les gens puissent regarder les choses en face. Quand il y a un problème, il faut crever l'abcès. Finalement, nous partageons ensemble ces pays. Même si nous avons des visions différentes, nous avons l'obligation, même pas pour nous-mêmes, pour des générations futures, de pouvoir gérer correctement ce qui nous revient de par la décolonisation, par l'héritage de nos ancêtres et par Dieu. Mais quand on voit la pratique, je rappelle encore une fois, kleptocratique du pouvoir en place et la pratique de pouvoir opaque, rien n'est clair. Il n'y a aucun appel d'offres. Le Premier ministre est en train a refait sa résidence pour 20 millions de dollars. Pas d'appel d'offres. Les routes ici, nous les faisons de manière tout à fait opaque. Et on va me dire qu'il y a des efforts. Je voudrais bien qu'on puisse faire de la dithyrambe politique pour protéger sa fonction, pour mon collègue ici qui est à ma gauche. Mais quand même, il y a des éléments objectifs qui font qu'on puisse respecter notre propre loi. Il y a les mécanismes de justice. Encore une fois, j'émets un doute sur la capacité de notre juge, de notre justice plutôt, à pouvoir tirer les choses au clair. Comme on le disait, je ne sais pas, je crois que c'est le professeur Michel qui le disait, que ça partira comme ça en autre boudin. On va jeter les bébés et l'eau du bain ensemble. Il n'y aura rien du tout. Okay. Tout simplement, un certain nombre de comptes de privés, des responsables politiques, de comptes privés des responsables politiques, seront dans des paradis fiscaux alimentés au détriment de la République.
Alors très brièvement, avant que je ne donne la parole à Michel Sommet, vous parlez de l'opacité du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre, mais il y a certains observateurs qui voient cet aspect dans toute la classe politique, y compris à votre niveau, à vous les députés.
Les députés responsables.
Cette opacité.
Les députés seraient opaques en faisant quoi? Les députés ne gèrent pas, surtout de l'opposition, ne gèrent pas la chose publique. La Constitution a attribué aux députés le rôle de pouvoir légiférer et de contrôler. L'aspect contrôle est plus de l'opposition que de la majorité. Or, nous assistons depuis un temps à une sorte d'étouffement du débat parlementaire. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à propos de la motion sur le Premier ministre. Est-ce que une signature d'un député s'apprécie? La validité de cette signature s'apprécie ex ante ou ex poste.
Voilà, nous allons rester dans notre débat de ce soir. Michel Sommet, on abordait déjà la deuxième partie de cette émission. Quelles pourraient être les conséquences pour la RDC? Il y a Désiré Bassaki Bognololo qui nous écrit de Bougna en province orientale qui dit « Si après la suspension, le gouvernement ne fait pas un effort pour se conformer, la RDC risquera d'être rayée de la liste de l'ITIE qui entraînera des conséquences graves, c'est-à-dire que la RDC perdra une sorte de crédibilité vis-à-vis des institutions internationales, la crédibilité des partenaires mondiaux de développement ainsi que la confiance des pays faisant partie de cette initiative. La RDC perdra aussi la confiance vis-à-vis de sa population qui mettra en cause la politique de la bonne gouvernance et la gestion du pays, ce qui veut dire que c'est le gouvernement qui est en lui seul l'émanation de la mauvaise gouvernance et de l'impunité, Michel Sommet.
Il a bien dit. Il a très bien dit. Mais la personne qui m'étonne le plus aujourd'hui, c'est le professeur Jérémy Doumba. Il m'étonne. Nous avons fait l'émission avec lui l'année dernière, en 2012, si ma mémoire est bonne, sur cette question de 88 millions, parler de près de 100 millions de dollars. On a parlé avec lui. J'étais au téléphone ce jour-là. Il était sur le plateau. Ce jour-là, il était très indigné de cette situation. Il s'en plaignait lui-même.
Peut-être que les données ont changé.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus la même personne. Aujourd'hui, c'est une personne qui voit dans le système rien de grave, rien de mal. Mais là, sous la pression de la société civile, il avait reconnu les efforts de la société civile et il avait reconnu que ce n'était pas normal. Aujourd'hui, il trouve ça normal. Ça m'étonne. Les conséquences, il en a parlé déjà lui-même quand il parle du Gabon qui a été radié. Nous ne sommes pas très loin de là. Parce que nous n'oublions pas que quand on parle même des initiatives sur la transparence, l'initiative pour la transparence dans la commande industrielle extractive, l'un des pays les plus concernés par cette initiative, c'est la RD Congo. Parce que nous sommes, comme tout le monde le sait, le réservoir mondial de toutes les ressources qui font l'objet de cette extraction. Donc nous sommes les regards du monde entier. Et donc quand on parle de la RD Congo, de cette façon-là, nous devons d'abord savoir que notre crédibilité est déjà en train d'être entamée sérieusement. Ça signifie que c'est un appel de pied qui est lancé du côté de nos différents partenaires, dont on dit qu'ils nous fréquentent maintenant, que nous avons recouvré notre image de fierté, etc. Mais on est en train de leur dire, regardez ces gens, il y a 88 millions de dollars qui ne savent pas nous retracer aujourd'hui. Donc ils ne sont pas crédibles. Et conséquemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même vous, le Fonds monétaire international de la Banque mondiale, n'écoutez pas trop leur jérémiade quand ils viennent pleurer pour avoir l'argent chez vous, parce que ils ne savent pas recouvrer ce qui leur appartient dans leur propre pays. Leurs ressources propres, les 88 millions sont là. Pourquoi ils peuvent vous demander 20, 30, 40 millions pendant qu'il y a 88 millions qui ne savent pas recouvrer, ce sont dans leur pays? Et moi, je dis, je ne comprends pas. Ce que je reproche à l'ITIE Congo, c'est cette faiblesse dans la dénonciation. C'est vrai, il dit, nous n'avons pas le pouvoir de contrôle. Mais c'est vous qui donnez la bonne information, c'est vous qui, quand vous criez, la société civile vient vous soutenir, elle vient vous appuyer dans ses efforts pour dire non. L'ITIE nous a donné la bonne information sur un détournement, entre guillemets, en perspective. Si détournement en perspective, il y a. Parce que il a dit, tant que la justice n'est pas encore saisie, on ne peut pas encore établir des responsabilités et croire à un détournement. Peut-être que si on fait un peu plus de pression du côté de la Banque centrale du Congo, les livres de la Banque centrale vont s'ouvrir. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de si compliqué. La comptabilité est là. La Banque centrale a un département de comptabilité d'eux-mêmes. Un département de compte courant qui s'occupe de ces situations-là. Et on peut retracer clairement les montants qui sont entrés dans le compte général du Trésor et le montant qui n'y est pas entré. C'est trop clair. Ce n'est pas difficile. Qu'on me dise que 3 ans après, une opération qui a eu lieu en 2010, jusqu'en 2013 qu'on ne trace pas ça, il y a un problème. Donc notre crédibilité est entamée. Je crois que si nous ne faisons pas un effort rapide pour retracer cette situation, nous serons effectivement radiés. Avec tout cela implique comme rapport désormais qui peut aller jusqu'à entamer notre capacité d'exportation de nos matières premières.
Okitapoy Longa nous écrit de Paris en France. Il dit c'est la mauvaise gouvernance et la corruption généralisée qui font de la RDC un pays non attractif aux investissements étrangers. La disparition de 80 millions de dollars taxés par les entreprises qui exploitent nos minerais est tout simplement un crime impardonnable et pire si les auteurs ne sont pas sanctionnés. Liévin Ledoux Ilunga, cet internaute, dit « Je suis désolé, c'est la honte pour un pays comme la RDC. Qu'est-ce que l'État congolais fera de mieux pour la nation sans être reproché ou suspendu? Et qu'est-ce qui prouve qu'elle sera en mesure d'améliorer le processus d'ici le 17 avril 2014? Tant que nous sommes en 2013, le gouvernement n'attendait que la suspension pour s'engager. Michel Somoué, entre-temps, vous dites qu'il faut agir. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ?»
Non, c'est ça. Simple. Nous sommes là dans une affaire précise de 88 millions de dollars qu'on doit retracer. Et nous savons que les paiements, l'agent, le collecteur ou celui qui gère le compte général du Trésor, c'est la Banque centrale du Congo. C'est lui le banquier de l'État, celui qui reçoit ses fonds. Celui qui a toutes les pièces comptables, qui peut nous dire « j'ai reçu, je n'ai pas reçu ». Donc c'est trop clair. C'est que la Banque centrale n'a pas reçu. Alors on va le rechercher au niveau des agents de la DGRAD qui avait perçu cette taxe et autres. Il faut qu'ils nous le disent, c'est facile. Dès qu'on parle de la Banque centrale, on va vers la DGRAD, qui a été l'agent percepteur, et on va lui demander ce que la DGRAD a fait de cet argent. Je suis en train de vous dire que quand on en avait débattu l'année passée avec le professeur Jérémy Doumba, on avait parlé des rétrocessions que les agents de la DGRAD se payent habituellement avant le versement dans le compte général du Trésor. C'est ce que je dis. On se paye sur l'argent du Trésor, on se le fout dans les poches avant que le Trésor lui-même ne l'ait encaissé. C'est là qu'il y a irrégularité.
Professeur Jérémy Makdoumba, le ministre de l'Environnement Bavon Samputu, deuxième vice-président du comité exécutif de l'ITRDC, lui qu'on a suivi en début d'émission, parlait d'un simple récalage. Il compare même cette situation à un étudiant qui a 85% et 2 échecs graves et qui est recalé en deuxième session. Quelles sont les conséquences d'après vous pour la RDC?
Alain, je ne peux pas répondre à la question sans revenir sur des choses qui sont très très surprenantes ici.
Très rapidement,
oui,
parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Il reste
moins de 8 minutes.
À l'honorable Fidèle Babala, je suis très surpris qu'il dise ici des choses vraiment que c'est l'ITI International qui a publié. C'est-à-dire, c'est là une preuve en plus que le député ne sait pas ce qui se passe.
Alors ceci étant dit, quelles sont les conséquences, professeur?
Il s'agit du rapport de l'ITE national. C'est l'ITE RDC qui a publié le rapport et non pas international.
Ceci
est-ce
étant
qu'il
dit...
aura de l'intérêt pour pouvoir suivre et puis voir les conséquences, si ce n'est que de la critique acerbe?
Alors quelles sont les conséquences?
Envers le gouvernement ou bien le parti de l'opposition. Maintenant, pour revenir à votre question.
Quelles sont les conséquences?
Les conséquences en ce qui concerne la suspension?
Qui concerne la RDC. Michel Somoué, le ministre lui-même a parlé d'un problème de crédibilité déjà.
Voici le problème. C'est pourquoi moi je continue, vraiment j'aime le terme, à minimiser le fait. La République démocratique du Congo est dans un processus d'apprentissage de la bonne pratique par rapport aux règles et aux exigences de l'ITI.
Même quand il perd sa crédibilité.
Sur les 20 exigences, nous avons accompli 15. 15 exigences ont été accomplies. Normalement et très bien. Donc, ce qu'on nous donne comme occasion, c'est d'améliorer le processus. Notre problème, la question fondamentale, Alain, je la retourne maintenant. Je ne vais pas revenir parce qu'on n'a pas le temps sur des choses que Michel vient de dire ici qui n'étaient pas dans ce temps. Mais nous disons, notre problème réel actuel, c'est que nous allons améliorer le périmètre de collecte des données et nous allons arriver à ce stade-là. Moi, je voudrais inviter Michel, je voudrais même inviter Fidèle ici. Quand nous serons conformes, je me demande ce qu'ils diront.
Et donc,
parce que nous le deviendrons.
Et donc, ce n'est qu'un processus.
Et donc,
il n'y a pas de conséquences fâcheuses pour la RDC.
Non. Eux, ils doivent se saisir de nos rapports pour pouvoir exploiter les résultats. Mais nous, les conséquences, nous n'en voyons pas pour le moment parce que nous sommes en train d'améliorer.
Honorable Baba, là, il nous reste moins de 5 minutes. Parlons des conséquences.
Rapidement, je voudrais préciser que j'ai lu les rapports publiés le 17 avril à l'issue du conseil d'administration de l'ITI International sur la suspension pour 12 mois de notre pays de l'ITI International. Les spécifications, les nuances, on en parlera, on a tout le temps d'en parler. Mais je note que notre ami n'est même pas convaincu de ce qu'il dit, le professeur Marc Doumba. Il n'est pas convaincu. Ce qui est important ici, c'est que cette affaire ait été portée en public. Maintenant, on va en débattre. C'est ça l'intérêt de la question. Mais il faudra qu'on puisse noter une volonté politique de notre gouvernement de pouvoir sanctionner pour une fois. Nous voyons l'impact de cette opacité, de cette kleptomanie au niveau du budget de l'État. L'industrie des mines, l'industrie extractive dans son ensemble est le secteur qui apporte le moins des ressources au budget de l'État, alors que ça devait être le plus grand pourvoyeur de ressources publiques. Donc arrêtons de nous mettre un martel en tête en prenant nos souhaits pour étant la réalité. La réalité est que nos gens ne sont pas à leur place, y compris les gens qui sont censés faire la transparence au niveau de l'ITI.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que cette situation puisse s'améliorer?
C'est ce que le professeur Michel a dit, et j'appuie ce qu'il a dit, l'économiste Michel. C'est d'abord une volonté politique de pouvoir punir. On fait une commission d'enquête où la justice s'en saisit. On arrive à tirer les responsabilités des uns et des autres et on sanctionne. Pas rester au niveau de la tolérance zéro qui restait un vœu pieux. Il faut sanctionner. Il faut une volonté politique de sanctionner. Autrement, on ne s'en sort pas.
Alors, en guise de conclusion, déjà, honorable, puisqu'il faut atterrir, pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces débats? Michel et vous-même, d'ailleurs, aviez effleuré la moralisation de la vie politique.
Il faut qu'on arrive effectivement à moraliser pour le bien de tous, pour la transparence, pour la fin de la corruption, à moraliser. Vous voyez ce qui se passe ailleurs, dans des pays comme la France, où un simple mensonge d'un ministre a des conséquences extraordinaires. Chez nous, ici, on a tendance à tout minimiser. Il y a des gens qui prennent un certain nombre de libertés par rapport aux revenus, aux deniers publics, et on ne s'en soucie même pas. Merci. J'aimerais juste rappeler que un détournement des biens publics, c'est le délai de prescription de 30 ans.
Merci.
Les gens qui ont volé ne doivent pas avoir le sommeil pendant 30 ans.
Merci. Michel Somoué, le professeur Doumba dit qu'il n'y a aucune conséquence fâcheuse.
Non, c'est pas possible. Non, il ne dit pas, il sait qu'il ne dit pas ce qui est vrai. Comment il peut y avoir des conséquences, professeur? On vous suspend. Déjà, le fait d'être suspendu, c'est une sanction, c'est déjà quand même une conséquence d'un comportement qui a été jugé et inadéquat. Donc, si vous ne vous corrigez pas, si vous ne rectifiez pas l'erreur rapidement, mais il y aura plus grave que ça. La suspension va se muer en radiation, peut-être, pourquoi pas. Mais ici, parce que nous parlons de ce qu'il faut faire, le président de la République lui-même, dernièrement à Lubumbashi, il s'est plaint du fait que il ne voit pas les retombées du code minier, de tout ce que nous faisons comme effort du côté du secteur minier, ça n'entre pas dans les caisses de trésor. L'État congolais se plaint, il n'a toujours pas de moyens, malgré tous les efforts qu'il a fournis pour libéraliser le secteur d'exploitation minière. C'est un problème sérieux. Nous, quel est le problème qui se pose aujourd'hui? Nous comprenons qu'il y a un grave problème de statistiques chez nous. C'est-à-dire que nous devons quelque part chercher comment améliorer l'instrument de collecte des données. Le professeur Doumba a effleuré cette question en disant nous devons le faire. Mais nous ne devons pas le faire comme si ça doit nous tomber comme une manne qui nous tombe du ciel et puis on en jouit. Nous devons faire un effort et dénoncer le mal partout où il est. Nous devons le dénicher et le bouter dehors. C'est un effort que tout le monde doit faire. En particulier, lui qui est dans ce secteur, qui est le responsable de la transparence. C'est lui qui a la plus lourde responsabilité pour nous aider à mettre fin à la corruption en publiant régulièrement et en dénonçant à haute voix tout le mal. Merci. Qui est dans ce secteur, qui est le secteur, en fait, le creuset même de la corruption.
Merci.
Et des détournements de deniers publics.
Merci Michel Soum. Professeur Marc Doumba, juste un mot pour conclure. Il faut continuer à espérer.
Rassurons-nous que nous ne dormons pas. Le gouvernement met à notre disposition des moyens d'améliorer notre rapport, mais nous voudrions que les députés, nous voudrions que la société civile fasse un débat sérieux qui amènera à un vrai changement lorsque on aura constaté réellement qu'il y a eu des détournements, qu'il y a eu des abus dans la bonne gouvernance. Mais on a besoin d'un débat sérieux de la part du Parlement et de la part de la société civile.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Retrouvez cette émission à 4h15 en rediffusion heure de Kinshasa. Et puis vous pouvez également la suivre sur radiocapi.net. Au revoir.